Bonjour, la ville de Genève a bel et bien violé la liberté d'expression en refusant de louer une salle à Dieudonné. Le tribunal fédéral confirme la décision du tribunal administratif du canton de Genève qui avait donné raison à l'humoriste français. Karine Suigny nous détaillera cette décision et vous entendrez la réaction de Patrice Muni, le conseiller administratif en charge de la culture à Genève. La Grande-Bretagne s'est dite prête à soutenir une intervention militaire sous mandat des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Et c'est dans la tension que le président élu Alassane Ouattara a présenté ses vœux hier soir au peuple ivoirien. Vous entendrez le reportage de Noureddine Zidane dans l'hôtel d'Alassane Ouattara. Attention au freinage d'urgence dans le M2. Certains passagers du métro lausannois ont vécu en décembre plusieurs freinages brutaux, projetant parfois par terre celles et ceux qui ne se tenaient pas aux poignées prévues à cet effet. Michel Bohin, la porte-parole d'ETL, nous expliquera que ces arrêts parfois violents surviennent lorsqu'une rame n'est plus détectée par le système de contrôle. En ce dernier jour de l'année 2010, nous parlerons de la problématique des personnes vivant dans la rue. Alors que beaucoup vont célébrer le passage à l'an nouveau, une attention particulière est-elle portée aux SDF et aux toxicomanes durant les fêtes? Nous poserons la question à notre invité Nicolas Pitou, le directeur de la Fondation du Passage à Lausanne. Ça sera en fin de journal. Un épais stratus recouvre toute la Suisse romande. Il fera 2 degrés aujourd'hui et ce stratus sera encore bien présent ce week-end. Il faudra monter au-dessus de 1000 mètres pour profiter du soleil. Météo d'Edmé Fleury dans une demi-heure. L'humoriste français Dieudonné a gagné son duel juridique face à la ville de Genève. Selon un arrêt publié aujourd'hui par le tribunal fédéral, Genève a bien violé la liberté d'expression de l'humoriste français en refusant de lui louer une salle de spectacle, Karine Suigny.
Oui, c'est une année qui finit plutôt mal pour le conseiller administratif Patrice Muni. Le magistrat en charge de la culture avait estimé en décembre 2009 que sa ville ne devait pas se rendre complice d'un humoriste qu'il juge clairement antisémite en lui louant ses installations. La justice fédérale en a donc décidé autrement en tranchant en faveur de Dieudonné. Patrice Muni, lui, a pris acte de cette décision, mais il ne regrette rien.
Si c'était à refaire, je le referais. Pourquoi ? Parce que le tribunal fédéral dit le droit, ce qui est tout à fait bien. Et à un moment donné, nous, on fait de la politique. Il est légitime que la ville exprime un désaveu à Dieudonné pour les propos qu'il tient par ailleurs dans le monde entier.
Donc là, aujourd'hui, vous ne dites pas que vous êtes peut-être allé un petit peu fort dans cette affaire?
Pas du tout. Je trouve très très bien que la ville persiste. J'espère que mes collègues me suivront à ne pas louer de salle à M. Dieudonné, qui est un antisémite notoire.
Quant aux suites de ce jugement, Patrice Muni n'exclut pas de faire appel de la décision de la justice fédérale devant la Cour européenne des droits de l'homme.
D'habitude, ce sont les individus qui vont contre les États à la Cour européenne de Strasbourg. Et puis, pourquoi pas imaginer une fois que c'est une collectivité publique qui irait à Strasbourg contre un individu, parce que M. Dieudonné a été condamné régulièrement en France pour ses propos antisémites. Alors c'est vrai qu'on fait la distinction, et j'imagine c'est ce que le tribunal fédéral a fait, entre les propos qu'il tient sur le plan politique et son spectacle. Mais à un moment donné, quand la ville ne loue pas sa salle à M. Dieudonné, c'est bien la personne de M. Dieudonné qu'elle veut éviter.
La ville de Genève n'aura finalement pas tout à fait réussi à éviter l'humoriste français puisque Dieudonné a présenté son spectacle intitulé Sandrine fin mai au bout du lac. C'était à la Cité Bleue, une salle appartenant à la fondation de la cité universitaire de Genève.
Karine Suigny en direct de Genève. La Grande-Bretagne est prête à soutenir une intervention militaire sous mandat des Nations Unies en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères. Londres espère toutefois voir aboutir les négociations menées par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour convaincre Laurent Gbagbo de se retirer. Noureddine Zidane, l'envoyé spécial de Radio France, était hier soir dans l'hôtel d'Alassane Ouattara. Reportage.
Mesdames et messieurs, monsieur le président de la République.
C'est dans un salon de l'hôtel du Golfe qu'Alassane Ouattara adresse ses vœux à la nation après un message à l'attention de son gouvernement et des militants de son parti, le RHDP.
Nous sommes là pour certains depuis le 28 novembre dans cet hôtel, mais je sais que vous auriez passé les fêtes en famille.
Impossible par la route avec les barrages, un bon kilomètre autour de la garde républicaine, fidèle à Laurent Gbagbo.
Ben, c'est très difficile, c'est vraiment intenable, mais on a tout de même, on a le moral.
Car pour Farikou, l'isolement n'est que physique.
On a le soutien de la communauté internationale. Ça nous permet d'avoir bon espoir.
Espoir que la situation se débloque pacifiquement. Quant aux menaces du clan Gbagbo et de son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé,
je vais demander à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, les mains nues, d'envahir le Golf Hotel.
Elle laisse Valérie de Marbre.
À l'époque, Blé Goudé a dit qu'il va libérer Bouaké à mains nues. Est-ce qu'il l'a fait? Nous voulons aller à la paix. Sinon, si on veut procéder à la violence, nous sommes majoritaires.
par la voie diplomatique aussi, on les bat copieusement. Donc ça ne nous fait même pas peur, quoi.
Un reportage de l'envoyé spécial de Radio France, Noureddine Zidane, en Côte d'Ivoire. En Australie, dans le nord-est du pays, les inondations qui affectent plus de 200 000 personnes couvrent une zone équivalente à celle de l'Allemagne et de la France réunies. Les pluies torrentielles qui touchent actuellement le pays ont provoqué les pires inondations en Australie depuis près de 50 ans. 2011 sera une année propice au développement de l'énergie solaire en Suisse. Avec la baisse constante du coût des installations, l'Office fédéral de l'énergie a pu doubler la part du fonds de rétribution consacré au soutien à la production de courant photovoltaïque. Des milliers de personnes qui souhaitent équiper leur toit de panneaux solaires et qui ont été mises sur liste d'attente verront ainsi leur demande aboutir plus vite que prévu, Pascal Jeunerat.
Oui, il y a en cette fin 2010 encore 7000 demandes pendantes, 7000 personnes qui attendent avant d'investir dans leur installation photovoltaïque, attendent de recevoir la garantie que leur production leur sera rétribuée au prix du marché. Or, le plafond qui freinait ce développement a pu être relevé grâce à la baisse du coût des installations solaires. 18% l'an dernier, 18% cette année et probablement encore 18% l'année prochaine, selon l'Office fédéral de l'énergie, qui pourra donc encore baisser le niveau de sa rétribution et donc augmenter le nombre de projets soutenus. Ainsi, les 7000 projets en attente devraient tous être financés d'ici 2013 et l'OFEN s'attend à ce que ce désengorgement provoque un nouvel afflux de demandes dès le printemps prochain. Bref, tout s'accélère avec le rapprochement du prix du kilowattheure solaire avec le prix du kilowattheure standard, ce qui réjouit le président de Swiss Solar, le conseiller national socialiste vaudois Roger Nordmann.
Notre but, c'est vraiment d'amener l'électricité photovoltaïque, l'éolien, etc. au prix du marché. Pour l'éolien, on y est quasiment, et bien pour le photovoltaïque, il y a encore un bout de chemin à faire, même si on a fait des grandes baisses.
Et selon l'OFEN, le coût de production de l'électricité solaire va encore baisser et aura atteint d'ici 5 à 10 ans le prix auquel devraient produire les possibles futures nouvelles centrales nucléaires, avec un kilowattheure estimé entre 8 et 12 centimes selon l'OFEN. Le grand débat sur le nucléaire qui animera l'année 2011 se fera aussi sur le prix du courant et pas seulement sur l'idéologie.
Pascal Jeunerat, en direct de Berne. Des passagers du métro lausannois M2 ont vécu en décembre plusieurs freinages d'urgence assez brutaux. Plusieurs personnes nous ont rapporté cette expérience à tel point qu'elles se sont retrouvées projetées par terre. Du côté des transports lausannois, on signale effectivement un petit peu plus d'incidents de ce type au mois de décembre, comme nous l'explique Michel Bohin, porte-parole des TL.
Nous avons effectivement des voyageurs dans le M2 et dans d'autres véhicules, que ce soit des véhicules routes ou le métro Tzoll, qui ne s'étant pas tenus comme il fallait, lors de freinages brusques, ont effectivement soit chuté, soit se sont cognés, mais il n'y a jamais eu d'incident majeur, d'incident grave à ce sujet.
Si une personne, par exemple, se casse un bras dans le M2 lors de l'un de ces freinages, est-ce que vous envisagez peut-être que la personne pourrait se retourner contre les TL?
Nous avons un service, nous avons un contentieux et tout accident qui peut se produire dans nos véhicules est traité effectivement automatiquement par les TL. Ça c'est tout à fait normal, ça c'est toujours fait et ça continuera à se faire.
Qu'est-ce qui provoque concrètement ces freinages?
Généralement c'est lorsque la rame n'est plus, la transmission si vous voulez de la localisation de la rame n'est plus détectable au sein de notre poste de contrôle. Et comme il s'agit d'un métro automatique, l'incidence directe, c'est que le métro va s'arrêter, car il ne peut pas prendre de risque de continuer à rouler sur une voie et de pouvoir aller heurter un autre véhicule qui serait dedans. Car le M2 fonctionne en fait sur une sorte de boucle hein, entre Croisette et Ouchy. Vous avez à peu près en continu 13 trains qui circulent et vous comprenez bien qu'ils sont les uns espacés les uns derrière les autres et que vous ne pouvez pas prendre le risque qu'il y en ait un qui continue, qui ne s'arrête pas à un moment donné et qui puisse aller heurter un autre train qui serait devant.
Parfois, ces freinages surviennent en pleine ascension, quand le métro est en pleine vitesse. C'est parfois très très brutal à vivre.
Ça peut être brutal, mais c'est un garant de sécurité. Si vous êtes automatique et que vous n'avez pas d'être humain qui peut apprécier une situation, vous êtes aussi obligé de vous dire que l'automatisme, le système de sécurité doit être très sensible pour pouvoir stopper le train. Alors il est bien évident que le M2 est une sorte de métro de montagne, hein, c'est très sinueux, c'est pentu, nous avons des pentes jusqu'à 12%. Alors effectivement, il peut y avoir des arrêts qui soient brusques. Mais ce que je dirais, c'est que dans n'importe quel véhicule, que ce soit le M2, que ce soit un bus ou le M1, tout passager doit se tenir. On ne doit pas se dire « je suis dans un véhicule ». C'est comme quand vous êtes dans votre voiture, vous mettez votre ceinture de sécurité. Il y a forcément des normes, il peut y avoir des freinages d'urgence et vous devez vous tenir.
Et si maintenant on ne peut pas le faire, il y a par exemple trop de monde, qu'est-ce que vous conseillez aux personnes ?
Écoutez, trop de monde, normalement, chaque personne doit pouvoir trouver la possibilité de pouvoir se tenir d'une main, soit à des poignées, soit à des barres. Il y a quand même la possibilité de pouvoir se tenir dans nos métros.
C'était Michel Bohin, la porte-parole des transports publics lausannois. Et on termine notre série des événements qui vont marquer 2011 dans les cantons romands. Direction aujourd'hui Neuchâtel, où 2011 s'ouvre sur l'espoir de repartir sur des bases plus saines après une année politique marquée par l'affaire Hénard. Plusieurs audits et enquêtes internes sont en cours au sein de l'État et la classe politique aspire à un retour au calme à Nouk Henry.
En espérant que la nouvelle année soit moins glissante que celle qui prend fin, ces mots qui figurent sur la carte de vœux du ministre Jean Stouder laissent entrevoir à quel point en 2010, le Conseil d'État a perdu le contrôle et à quel point les attentes sont fortes pour retrouver une sérénité politique après les affaires qui ont conduit à la démission de Frédéric Hénard. Pour y contribuer, plusieurs enquêtes internes doivent aboutir prochainement. Elles concernent notamment la police, l'université et le département de l'économie.
Et les conclusions les plus attendues sont certainement celles de la commission d'enquête parlementaire.
Oui, cette fameuse CEP derrière laquelle tout le monde s'est retranché pendant des mois. On peut dire que la publication de son rapport servira de catharsis au canton. Le monde politique pourra alors enfin employer les problèmes qui se sont accumulés l'an dernier.
Mais 2011, à Nouk Henry, ne servira pas uniquement à oublier 2010.
Non, car malgré tout, plusieurs grands chantiers connaîtront cette année une avancée importante. Les premiers forages pour l'étude de la liaison ferroviaire Transrhin vont débuter, mais c'est aussi cette année que les opposants pourraient faire entendre leur voix contre ce projet, jusqu'ici unanimement salué. Le concept éolien fera également l'objet d'un débat populaire, tout comme la réforme scolaire. En août, l'entrée en vigueur de Armos obligera les petits Neuchâtelois à intégrer l'école dès 4 ans. Et une partie des enseignants s'oppose à l'introduction des horaires blocs. Enfin, une page se tourne également du côté des hôpitaux puisque, après plusieurs mois de conflits internes, le jurassien Laurent Christ prendra la tête de l'institution.
Et puis en 2011, Neuchâtel devra surmonter la crise économique, cette fois qui l'a touché de plein fouet.
Ce sont les vœux exprimés par le président du Conseil d'État, Claude Nicati. Le 1er avril, l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'assurance chômage verra plusieurs centaines de chômeurs en fin de droit tomber à la charge du canton. Deux jours plus tard, le peuple devra se prononcer sur la réforme de la fiscalité. Pour assainir ses finances, le canton envisage de baisser drastiquement les impôts des entreprises. Parallèlement, les Neuchâtelois devront aussi décider s'ils soutiennent l'initiative pour augmenter les places de crèche. Ces deux objets, comme les autres chantiers prévus en 2011, impliquent que les Neuchâtelois prennent position sur leur avenir et cela ne sera pas possible si la République n'a pas trouvé sa stabilité.
À Nouk Henry en direct de Neuchâtel et on se tourne à présent du côté du Jura où l'on peut difficilement parler du Jura et du Jura bernois sans commencer par la question jurassienne et les travaux de l'AIJ. Ces travaux devraient déboucher sur des votes consultatifs, Gaël Klein.
Oui, avec un nouveau président aux commandes de l'Assemblée interjurassienne dès le 1er janvier, le Tessinois Dick Marty, on peut effectivement s'attendre à un autre rythme, d'autant plus que les cantons doivent maintenant se déterminer sur l'organisation d'un vote consultatif afin de poursuivre les travaux entamés sur l'avenir institutionnel de la région interjurassienne. Si l'organisation d'une telle consultation ne fait pas de doute dans le Jura, elle semble faire son chemin aussi dans le canton de Berne. Reste à connaître maintenant le calendrier.
Et 2011, année des élections fédérales avec des enjeux particuliers cette fois pour le Jura et le Jura bernois.
Dans le canton du Jura, on prévoit une bataille acharnée pour les deux sièges au national. Avec le retrait de Jean-Claude Reynevald, le Parti Socialiste devra trouver le candidat idéal pour lui succéder. Mais attention, le PDC est en embuscade, bien décidé à reprendre le siège que lui a piqué l'UDC il y a 4 ans, en plaçant Dominique Bettic alors au bénéfice d'un apparentement signé avec les radicaux. Dans le Jura bernois, il n'y aura pas de liste socialiste romande. Le Parti Socialiste Autonomiste et le Parti Socialiste du Jura bernois n'ont pas réussi à s'entendre. L'objectif était pourtant de prendre le siège de l'UDC Jean-Pierre Grabert au Conseil national.
Dans le canton du Jura, l'un des premiers dossiers à régler au début 2011 en tout cas, c'est celui de la police, ça c'est pour le nouveau gouvernement.
Oui, la situation née de la mise à pied du commandant de la police il y a maintenant plus de 4 mois devient en effet difficile. Pour rappel, il a été suspendu pour abus d'autorité. L'intérim est assuré par son adjoint et bien malin serait celui qui pourrait dire combien de temps va durer l'instruction ouverte contre le commandant. En attendant, la réorganisation de la police annoncée cet été fait du surplace. Police jurassienne 2015, c'est son nom, ne peut pourtant pas attendre, nous avait confié il y a quelques jours le ministre jurassien de la police. Des décisions devraient donc tomber dans les prochaines semaines.
Et enfin, l'année 2011 sera aussi une année riche en événements pour la région jurassienne, que ce soit sur la route ou sur le rail.
Oui, les inaugurations vont se succéder puisque 2 tronçons très importants de l'autoroute A16 sont en voie d'achèvement. Le contournement de Moutiers, son tunnel qui permettra de traverser la cité prévotoise en souterrain, et un tronçon entre la frontière française et la localité de Bure. Ouverture de ces 2 portions d'autoroute fin 2011. Enfin, on pense au rail avec l'ouverture aussi d'une gare TGV à quelques kilomètres de la frontière. Ce sera le 11 décembre, première étape d'une ligne à grande vitesse qui mettra Delémont à 3 heures de Paris. Le Jura sera alors la région du pays la plus proche de la capitale française.
Voilà pour les perspectives 2011 dans les cantons romands. Lundi, David Racana entamera une série consacrée à d'autres événements de l'année prochaine. Nous verrons ce qui est attendu lundi dans l'actualité internationale. Pays du président Evo Morales, la Bolivie a encore du chemin à parcourir sur la voie des droits de l'homme. Dans certains villages boliviens, on cache, voire même on tue les handicapés. Tous deux éducateurs spécialisés, la valaisanne Sandrine Bourbon et son mari belge Jérémy Mas, œuvrent depuis 2 ans en Bolivie sur un programme dans le domaine du handicap. Une mission qui n'a rien d'une évidence, comme le confie le duo qui était de passage en Suisse.
En fait, une grande partie de notre travail, c'est aussi la sensibilisation au handicap, qui est encore très tabou, surtout dans la campagne bolivienne. Du coup, on essaye de se mettre ensemble avec la population et les organisations pour montrer aux gens que ce n'est pas une punition divine, ni un tabou, et que ces personnes ont le droit à l'éducation, au soin de la santé.
Et Jérémy, c'est pas facile du tout à faire comprendre tout ça.
Oui, effectivement, souvent c'est difficile de faire passer ce message, car le symbole de la Pachamama est très ancré en Bolivie, donc la terre-mère. Souvent encore, le handicap est considéré comme tabou, comme punition divine. Et notre rôle au quotidien, c'est vraiment de pouvoir travailler au mieux avec les croyances locales.
Et alors, comment est-ce qu'on travaille tout ça, Sandrine ?
Alors, au quotidien, ça se présente plutôt avec des ateliers de prévention, de sensibilisation, avec les parents d'élèves, les familles, les autorités. Et puis, notre mission, elle s'inscrit dans une durée de 3 ans. C'est l'organisation Échanger qui nous envoie à Fribourg, donc une organisation qui travaille avec la coopération par l'envoi de personnes. Et les 2 thèmes principaux, c'est la souveraineté alimentaire et la participation citoyenne au Sud. Donc notre programme s'insère en fait à la participation citoyenne dans le développement du droit de la personne handicapée.
Et puis cette dernière question, est-ce que la situation en Bolivie a évolué depuis l'arrivée d'Evo Morales ?
Alors depuis l'arrivée d'Evo, oui, on peut noter de grands changements au niveau social, au niveau politique, avec beaucoup de réformes. Il y a la création d'un bon pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées. Donc petit à petit, on va vers un renforcement des droits humains en Bolivie.
Des propos recueillis par Yves Terrani, et d'autres informations sont disponibles sur l'organisation suisse de coopération solidaire Nord-Sud Échanger sur www.e-changer.ch.
Le 12-30, Natacha Van Kutsem.
Trafic infernal, bouchons permanents, Pékin est la ville la plus congestionnée au monde, ex aequo avec Mexico. Les autorités municipales ont décidé de prendre des mesures. Elles viennent de publier une série de directives censées améliorer la situation. Parmi les plus radicales, celles qui consistent à limiter dès l'an prochain le nombre d'immatriculations annuelles à 240 000, alors qu'il y en a eu plus de 700 000 cette année. Un tirage au sort désignera ceux qui pourront acquérir une voiture. C'est la carte postale hebdomadaire de notre correspondant à Pékin, Alain Arnaud.
Ces jours, les meilleurs coins de Pékin pour faire le trafic, ce sont les marchés aux voitures. Celui de Chonglian se spécialise dans les véhicules d'occasion. Normalement, il s'y en vend 400 par jour. Les ventes ont augmenté de près de 50% en une année. Mais aujourd'hui, plus un chat. Depuis que les autorités ont annoncé des restrictions sévères pour le nombre d'immatriculations de véhicules à Pékin. Chen Xing est le patron du marché d'occasion.
Bien sûr qu'avec ces nouvelles règles, qui disent que même pour les voitures d'occasion, les plaques seront attribuées par tirage au sort, notre marché est paralysé. Vous voyez, pas un seul client. Les marchands n'ont strictement rien à faire. Nous sommes tous là à attendre.
Parmi eux, Sun Tiacheng, vendeur de voitures d'occasion.
Si ça continue comme ça, on peut fermer boutique. Il n'y aura plus de demande pour les occasions.
Et le marchand estimait qu'il faudrait bien d'autres mesures pour vraiment améliorer la situation du trafic à Pékin.
Les efforts actuels vont juste permettre d'un peu mieux contrôler la situation. Mais il faudrait aussi améliorer les routes, les ponts, les tunnels, les croisements aussi.
La plupart des Pékinois ne se font pas beaucoup d'illusions. Les autorités auront bien de la peine à empêcher les gens d'acheter une voiture. C'est aussi l'avis du chauffeur de taxi, Bai Chunchen.
Celui qui a vraiment besoin d'une voiture va trouver une combine. C'est sûr qu'il pourra s'en acheter une.
Parce que pour le chauffeur, les nouvelles restrictions sont une promesse de bonnes affaires.
Oui, c'est vrai, j'aurai sûrement plus de passagers. Ceux qui ne pourront pas acheter de voiture vont devoir prendre le taxi.
C'est ce que vont déjà faire beaucoup ce soir pour le réveillon, mais plus encore ne bougeront pas de chez eux de peur de rester coincés dans les bouchons.
C'était la carte postale chinoise de notre correspondant en Chine, Alain Arnaud. Des photos et des textes sont disponibles pour votre information sur notre site rsrinfo.ch. Et on va revenir sur les musiques qui ont marqué l'année 2010, de la chanson française Désabusée, en passant par le hip-hop et quelques moments forts des festivals. Voici la rétrospective des musiques actuelles. Elle est signée Michel Masseret.
Et tout d'abord un constat, les morts n'ont jamais été aussi présents. Business oblige, Michael Jackson et John Lennon ont hanté cette fin d'année 2010, plombant un millésime plutôt pauvre à l'image d'une décennie marquée par le revival et le cannibalisme musical. Quelques fulgurances dans ce panorama grisouille, avec côté chanson française, deux voix, celle d'Arnaud Florent Didier et sa radiographie sèche de la société française.
On m'a pas dit comment faire avec les filles, comment faire avec l'argent, comment faire avec les morts. Il fallait trouver comment vivre avec demi-frère, demi-sœur, demi-mort, demi-compagne, maîtresse, zéro marié, alcoolique, pas français.
Et puis Florent Marché et ses drôles de vacances à Courchevel.
Quand tu passais tes Noëls au chalet à Courchevel, bien trop loin de nos fenêtres, j'imaginais sans connaître, dans tes poumons de crevettes, l'odeur de la piste verte et tes parents peu de Nantes.
Toujours dans l'Hexagone, Section d'Assaut a été la révélation rap. Plus de 300 000 albums vendus, des concerts à guichet fermé et un petit scandale pour propos homophobes.
Les soirées de samedi soir, quelquefois samedi soir, pour quelques billets de sang, ça part en gîte et sang.
L'année 2010 aura été celle de la confirmation pour deux groupes rock que l'on a pu apprécier lors de la saison des festivals, The National et surtout Falls et leur rock enflammé. Côté suisse, une année dense avec les premiers albums prometteurs de Solange Lafrange et de Fortuna, une Sophie Hunger au zénith ou presque, et le retour des Young Gods avec un disque fort et ambitieux.
Hey Mr. Sunshine, climbing mountain trails, dropping flower veils.
Et cela devrait se confirmer en 2011 avec un nouvel album des Favez prévu en février et ce titre Closet Astronaut pour une nouvelle année en apesanteur.
Voilà pour les moments musicaux de 2010, extrait choisi aujourd'hui par Michel Masseret. Et ce soir, beaucoup vont réveillonner un petit peu partout dans le monde, mais pour les personnes qui rencontrent des problèmes de logement ou de toxicomanie, les périodes de fêtes sont aussi des moments de solitude, peut-être pour certains des moments même à risque. Nicolas Pitou nous a rejoint en ce vendredi 31 décembre. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous en ce jour presque de fête, en tout cas à la Fondation ABS du Passage. C'est en ce moment qu'il y a le dîner justement de réveillon.
Effectivement.
On a choisi donc de parler aujourd'hui des plus démunis. Nicolas Pitou, vous êtes le directeur de cette Fondation ABS Le Passage à Lausanne. Vous connaissez bien la problématique de la rue, celle de la capitale vaudoise en particulier. Noël, Nouvel An, pour vous en tant que directeur de la Fondation ABS, ça représente des périodes de fin d'année plus difficiles au sein du Passage ou pas forcément ?
C'est pas forcément une période plus difficile dans cette période de fin d'année, mais effectivement, ça nous demande une attention particulière, une présence particulière, certainement plus soutenue que le reste de l'année, même si les problèmes ne s'arrêtent pas aux fêtes de Noël et de fin d'année. Les problèmes sont là toute l'année, et pour les personnes en précarité, l'été aussi, des périodes extrêmement difficiles.
Vous disiez une attention particulière, ça veut dire qu'il y a plus d'attentes, de besoins, de besoins d'écoute, par exemple, pour les personnes que vous rencontrez?
Il faut être effectivement plus à l'écoute, plus attentif. On voit des personnes forcément qui dépriment plus pendant les fêtes. C'est, je pense, un peu comme pour tout un chacun. C'est un moment particulier de l'année qui est souvent en lien avec la famille. Et pour la plupart de nos usagers, les liens avec la famille sont des liens extrêmement difficiles, extrêmement complexes. C'est souvent absent, malheureusement.
Est-ce que les pensionnaires, dans ces périodes de fin d'année, se remettent aussi pas mal en question et s'interrogent justement sur le chemin qu'ils ont pris dans la vie?
Je crois que c'est effectivement comme pour nous-mêmes, hein, les périodes de fin d'année, c'est une période de bilan. Mais je ne sais pas s'ils font un bilan plus particulier en fin d'année. Effectivement, ils ont des espoirs que l'année suivante ira mieux, peut-être des espoirs de pouvoir arrêter leur consommation, mais ça sera un long chemin pour pouvoir l'accomplir.
Vous accueillez environ 50 à 100 personnes, hein, à peu près, à la Fondation ABS Le Passage, c'est bien ça?
C'est exact.
Oui. Des personnes sans domicile. Fixe, il y a surtout des personnes toxicomanes, hein, pour l'association dont vous êtes.
Essentiellement
occupez.
Des personnes toxicomanes.
La
oui.
toxicomanie, vous l'avez d'ailleurs dit, les personnes sont sans famille, puisqu'une personne toxicomane est bien souvent coupée de ses amis et de sa famille à cause justement de la toxicomanie. Les fêtes de fin d'année, ça leur rappelle aussi la situation précaire, mais vous le dites, bonne résolution aussi en 2011, ils essayent d'en prendre en tout cas.
Effectivement, je crois que tout le monde essaye de prendre de bonnes résolutions pour l'année suivante. Et pour eux en particulier, ils essayent effectivement de se dire qu'ils vont essayer de changer des choses dans leur existence. En tout cas, éventuellement diminuer leur consommation, peut-être refaire des contacts qu'ils n'ont plus et reprendre contact avec leur famille. Mais c'est aussi l'occasion peut-être à Noël pour ces personnes-là de faire un effort et de reprendre contact. Et pour les familles, c'est exactement la même chose. Plusieurs familles essayent d'être plus présents pendant les fêtes de Noël.
C'est ce que j'allais vous demander. Il n'y a pas que du négatif dans toute cette situation. Il y a aussi peut-être des moments justement où il y a des bonnes nouvelles et on renoue quand même avec la famille.
Oui, plusieurs usagers pouvaient passer les fêtes de Noël avec leur famille. Donc,
ils l'ont fait.
Et ils l'ont fait, oui.
Certains l'ont fait.
Oui,
est-ce que vous pensez qu'il faut un petit peu repenser les besoins et l'encadrement dans la rue aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de migrants aussi qui s'ajoutent maintenant au SDF, j'ai envie de dire presque entre guillemets vraiment classique, standard. Là, on a des migrants qui arrivent, des migrants touchés aussi par la toxicomanie?
Oui, forcément. Hein. Le problème des migrants, c'est de se retrouver sans domicile fixe. On sait aussi que la situation des sans domicile fixe va provoquer un certain nombre de problématiques psychiques et que la toxicomanie peut être, ou la consommation de substances, un moyen d'oublier ces problèmes et d'y faire face.
Est-ce qu'on a des besoins suffisants en ce moment? Il faudrait les repenser différemment?
C'est une question difficile à répondre si on a les moyens. Je pense qu'on doit avoir une attention particulière comme l'accès aux soins pour les populations migrantes, mais ce n'est pas le cas de toutes les populations. C'est uniquement pour les populations en situation illégale en Suisse. Et lorsqu'ils ont des problèmes de toxicomanie, la prise en charge devient extrêmement complexe parce qu'ils n'ont pas forcément accès aux thérapies qui leur permettraient de se soigner et de rentrer dans leur pays.
Et vous le disiez, donc à la Fondation ABS Lausanne en ce moment, Le Passage, ils sont en train de réveillonner. Il y a beaucoup de monde, bonne ambiance, tout se passe bien.
Il doit y avoir une cinquantaine de personnes à peu près pour leur part. À Noël, on a eu un petit peu moins de monde, une quarantaine de personnes, par rapport aux années précédentes. On ne peut pas expliquer, c'est extrêmement variable. Hein. Il peut y avoir plus d'arrestations, des gens plus dans leur famille. Enfin, pour nous, il est difficile de comprendre les fluctuations de fréquentation du passage.
En tout cas, vous leur donnez l'occasion de célébrer donc ces fêtes de fin d'année. Merci Nicolas Pitou d'être venu dans ce journal. Vous êtes le directeur de la Fondation ABS Le Passage à Lausanne. Je vous souhaite une bonne année, bonne journée.
À vous aussi, merci beaucoup.
Et on va prendre des nouvelles du ciel. Des couleurs du ciel plutôt, et de mes fleuries.
Le stratus capricieux dominera plus franchement que prévu le ciel de cet après-midi. Dans le Jura et sur le plateau, une deuxième couche de nuages couvre la première. Elle plafonne vers 2000 mètres et ne laissera pas beaucoup de place au rayonnement solaire. Les Préalpes et le Valais sont touchés par une grisaille qui se situe vers 1000 mètres. Quelques trouées de soleil sont possibles dans l'après-midi. Les températures en plaine seront positives avec des maxima de 0 à 2 degrés. Il fera 1 degré à 2000 mètres. Le premier jour de l'année ne sera pas salué partout par le soleil. Demain, le Jura et le plateau devraient même rester sous un épais chapeau gris. Par contre, au-dessus de 1500 mètres, le ciel bleu dominera sur toutes nos régions. Les températures en plaine auront des maxima aux alentours de 1 degré. En montagne, une vague d'air plus froid commencera à faire son effet. À 2000 mètres, le thermomètre baissera progressivement de 0 à moins 5 degrés. Dimanche, la sensation de froid sera renforcée par une bise modérée sur le plateau.
Ismaël Gonzato et Hervé Mermillo étaient en régie pour ce journal de 12h30 du 31 décembre 2010. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à le préparer. Lundi, dans le journal de 12h30 sur la première, David Racana recevra Véronique Châtel, auteur d'un livre sur la communication dans les couples. Un ouvrage sorti aux éditions Favre intitulé « Communication de couple, comment ne pas virer au dialogue de sourds ». Excellente année 2011 à vous tous. Sur la première, il est 13h.